que nous allons parler maintenant d'un auteur italien qui s'appelle Eri De Luca et que Marina Mongelio nous présente.
Eri De Luca est l'un des plus importants écrivains contemporains italiens. Il est né à Naples il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années. Encore jeune, il s'est engagé au sein du mouvement d'extrême gauche Lotta Continua, pendant que, en 1968, il fréquentait le lycée français de Rome. Ensuite, il a exercé de multiples métiers manuels en Afrique, en France et en Italie, comme ouvrier ou maçon, et il a aussi, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, conduit les missions d'aide humanitaire pour la population bosniaque. Son premier livre, Une fois un jour, le titre originel étant Non ora non qui, décrit les sensations qu'on prouve face au temps qui passe. L'auteur raconte son enfance napolitaine en évoquant la famille et les amis disparus. On se balance entre le sentiment d'avoir tout perdu et la certitude qu'il y a des choses qui restent à travers le temps. Toujours très jeune, il apprend l'hébreu de manière autodidacte pour lire les textes sacrés, desquels il traduit aussi certaines parties. Il a décrit son envie d'apprendre une nouvelle langue si différente de la sienne, non pas avec une motivation religieuse, mais comme un besoin d'entretenir sa mémoire et de connaître la littérature sacrée qui est si particulière. Eri De Luca a écrit de nombreux romans, comme « Tu mio » ou « Trois chevaux », grâce auxquels il a gagné le prix L'Or Bataillon en 2002, conjointement à la traductrice française Danielle Valin. Il a aussi produit un livre de nouvelles, « Acide arc-en-ciel », qui a gagné le prix France Culture en 1994. Dans ce livre, le narrateur raconte trois rencontres qu'il a faites dans le passé. De vieux copains de lycée lui ont raconté leur vie, et Eri De Luca en profite ainsi pour décrire trois trajectoires emblématiques que les hommes de sa génération ont pu entreprendre. Le premier est un combattant, un homme engagé qui devient un assassin. Le deuxième est un missionnaire qui part en Afrique en mission évangélique. Et le troisième est celui qui se désigne comme un courtisan errant, un homme qui n'a pratiqué aucun métier et qui a connu la prison et l'incompréhension. Ces trois existences ne sont que des réflexions sur la vie réelle de l'auteur, sur les multiples possibilités que la vie nous offre, mais aussi sur les illusions de chacun d'entre nous. Le dernier roman d'Eri De Luca est Monte di Dio. Il est paru en traduction française en 2002. Monte di Dio est le nom d'un quartier de Naples, et dans son roman, Eri De Luca en raconte la vie tranquille et les secrets, par la voix d'un jeune de 13 ans. Eri De Luca est une personne très simple, qui aime flâner et regarder les étoiles. Cela se reflète dans une narration spontanée et émotive, à travers laquelle il décrit les états les plus profonds de l'âme humaine. Dans ses récits, le passé et le présent se mêlent, la réalité historique et la réalité contemporaine, l'actualité et les souvenirs. Il décrit aussi parfaitement la nature des milieux qu'il connaît très bien. Dans les histoires qui se déroulent à la mer, là où il est né, il explique la beauté et les dangers de la mer. Mais dans les histoires qui se passent à la montagne aussi, il sait très bien décrire un monde qu'il aime bien. Le lecteur se plonge ainsi dans les images créées par la plume de l'auteur qui sont puissantes et vives et très efficaces. Aujourd'hui, on va parler en particulier de « Tu mio » qui a été traduit par Daniel Valin pour Rivage en 1998. Le protagoniste est un adolescent qui passe ses vacances sur une île près de Naples au milieu des années 50. Il décrit très bien la transformation du physique du jeune homme, qui devient rapidement bronzé et rugueux, très différent de celui qu'il était en ville. Sa routine change aussi, parce qu'il entre en contact avec la vie paisible des pêcheurs de l'île. Même si pour l'adolescent ce n'est pas nouveau de passer l'été sur l'île, vu qu'il y allait toutes les années, cet été, tout est différent. Quelque chose a changé profondément en lui-même. Il fait ses premières expériences en tant que pêcheur avec son oncle qui possède un bateau. Il connaît aussi de nouveaux amis et il tombe amoureux d'une fille mystérieuse. Mais surtout, pendant tout l'été, il ne cesse de poser des questions aux personnes qui l'entourent. À un pêcheur qui a connu la guerre, à la fille au nom difficile et à son cousin plus vieux que lui. Mais c'est des questions qui resteront en partie sans réponse, jusqu'à ce que le protagoniste ne se rende compte que la solution est à chercher au fond de soi-même. Avec un style impalpable et poétique, Eri De Luca décrit à la perfection la vie sur l'île, la manualité des pêcheurs et l'ambiance tranquille d'un été en Italie du Sud. Le suivant est un petit extrait de « Tu mio » par Eri De Luca, où le protagoniste est allé pêcher avec son oncle et se fait mordre par une murène. Il découvre ainsi qu'il est nécessaire de passer par cette douleur pour être enfin un vrai pêcheur.
Et maintenant, Marina, on va écouter l'interview qui a été enregistrée hier avec Eri De Luca.
Eri De Luca, vous êtes né à Naples, mais vous avez voyagé beaucoup au cours de votre vie. Dans certains de vos romans, vous décrivez la réalité napolitaine, dans d'autres romans, d'autres réalités. Comment définiriez-vous vous-même, un écrivain napolitain, italien ou un citoyen du monde?
Dunque, sono nato a Napoli, dunque...
Je suis né à Naples, donc j'ai une dette d'origine envers ce lieu. Je n'appartiens plus à cette ville parce que je m'en suis détaché à 18 ans, mais c'est en somme le lieu d'où je viens. Toute mon éducation sentimentale a eu lieu là-bas. Mon système nerveux s'est accordé à l'octave musicale de cette ville. Le napolitain était ma première langue. L'italien était la langue qu'on trouvait seulement dans les livres ou dans la voix de mon père qui prétendait qu'on parle, au moins avec lui, cette deuxième langue, l'italien. J'écris en italien, je suis un écrivain italien dans cette langue.
Pendant vos déplacements, vos voyages, vous avez appris le français, mais vous avez aussi décidé d'apprendre l'hébreu pour pouvoir lire la Bible dans sa langue originelle. Qu'est-ce que signifie pour vous le fait d'apprendre une nouvelle langue? C'est l'ouverture d'une porte sur un monde nouveau ou c'est la réponse à un besoin de communication?
Apprendre une nouvelle langue signifie augmenter ses connaissances, avoir plus de possibilités d'avoir accès à la voix originelle d'autres peuples sans devoir recourir à la traduction. J'ai appris l'ancien hébreu pour l'intérêt, la passion, l'attraction que je sens vers cette histoire primitive, primordiale, dans laquelle la tradition du monothéisme s'est inscrite. Le monothéisme s'est imprimé, s'est forgé pour la première fois en ancien hébreu. Et donc, cette langue contient l'empreinte de cette première impression, de ce premier format de la révélation. J'ai appris l'ancien hébreu pour pouvoir remonter à cette langue tout seul, pour m'abreuver directement à la source.
Pourquoi avez-vous décidé de traduire des extraits de la Bible ?
J'ai décidé de traduire des extraits de la Bible de l'ancien hébreu à l'italien pour restituer quelque chose que j'ai reçu de la lecture en ancien hébreu, pour la restituer aux autres, à ceux qui n'ont pas la chance de connaître cette langue. J'ai porté des exemples, je ne vais pas traduire toutes les saintes écritures, mais j'ai donné des exemples de traduction qui sont, dans mon intention, le plus littéralement possible, mot par mot, où l'italien est une langue de second plan, une langue de service par rapport à l'ancien hébreu.
Dans l'interview parue dans Le Monde, au mois d'août dernier, il y avait un parallèle très intéressant entre la lecture de la Bible et les excursions en montagne. Vous êtes un alpiniste, n'est-ce pas ?
Oui, je fais des excursions en montagne régulièrement.
Lire la Bible serait une aventure, serait le moyen de trouver des espaces comme l'alpinisme ?
Comme pour la montagne, il s'agit de la possibilité, le matin très tôt, puisque je lis les Saintes Écritures le matin très tôt, de me retrouver dans un désert, un lieu où il n'y a personne, où il n'y a que moi et ces mots anciens, lointains. Je m'y promène, pas en tant que croyant, mais en tant que passant. Je ne suis pas résident dans cette langue ou cette histoire, j'y fais simplement une promenade matinale. J'y entre, je parcours, je fouille ce désert, quelques pages, un chapitre, et puis je le ferme et je rentre dans ma chambre à nouveau dans ma vie. C'est la même chose pour les randonnées à la montagne. Je me penche sur les montagnes parce que j'y trouve un désert, une place où l'être humain manque, où il est carrément absent. Et on arrive à voir le monde comme il était une fois, avant la parution de l'homme et comme il sera après notre disparition. Parce que nous ne sommes pas éternels tandis que les montagnes le sont.
Quel est le rapport entre cette quête d'un espace personnel et l'écriture?
Ce que je fais avec mon corps sont des affaires qui ne devraient pas concerner l'écriture. L'écriture est pour moi la possibilité de retourner sur des morceaux du passé et rencontrer des personnes. Pour le lecteur, ce sont des personnages. Mais pour moi, ce sont des personnes du passé auxquelles je rends visite et avec lesquelles je m'attarde pour la durée de l'histoire. Ceci veut dire que j'écris seulement des fêtes qui ont eu lieu près de moi, que j'ai vécues, auxquelles j'ajoute très peu de fiction, seulement ce qui est nécessaire pour dissimuler un peu la réalité, pour qu'elle ne soit pas reconnaissable et évidente aux autres.
Pendant votre vie, vous vous êtes engagé dans le bénévolat. Et politiquement aussi. Dans vos romans, vous racontez donc des histoires autobiographiques. Êtes-vous aussi un écrivain engagé?
Je n'ose pas prendre sur moi la gratification d'écrivain engagé. Dans la vie, il m'est arrivé de contacter des engagements et j'ai essayé de leur rendre honneur le plus que possible. Quand j'étais jeune, je faisais partie d'une génération politiquement insubordonnée, insurgée. J'ai fait partie de la gauche révolutionnaire pendant longtemps. J'ai été comme bénévole le chauffeur de convoi d'aide humanitaire pendant la guerre de Bosnie, parce que cette guerre avait lieu en ce moment et c'était nécessaire de m'engager. Mais je ne suis pas une de ces personnes qui cherchent à tout prix une occasion de s'engager. Je m'engage s'il y a des engagements inévitables qui se présentent dans la vie ou dans la société. Aujourd'hui, je m'engage de sorte que le mot « guerre » redevienne maudit, tandis que dans notre pays, ce mot semble désormais indiquer une activité d'exportation de troupes à l'étranger.
Dans la situation internationale actuelle, croyez-vous que les jeunes doivent agir, s'engager plus ?
Les jeunes doivent s'engager parce que le monde est à eux. Et s'ils ne s'engagent pas, ils auront un monde imprimé par les adultes. C'est dans leur intérêt biologique et générationnel de s'engager, de ne pas regarder que leur immeuble a leur intérêt, mais de s'engager de façon altruiste pour construire un monde qui est meilleur pour eux-mêmes. C'est leur intérêt, s'ils n'essayent pas, ils se retrouveront dans le monde des vieux.
Avez-vous l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose? Ou seraient-ils plutôt endormis par les jeux vidéo par la télévision? Par exemple, les drapeaux de la paix ont été bien à la mode, mais c'était la télé qui leur disait de les mettre.
Non, la télé, au contraire, leur disait d'aller à la guerre, d'applaudir aux interventions militaires. Les drapeaux de la paix ont été le seul esprit de contradiction que ce pays a démontré par rapport à la cinglée aventure militaire. Il me semble qu'à la fin, les jeunes font de sorte que le monde, comme il est, et donc le monde des vieux, leur suffit.
Donc c'est un futur noir pour les jeunes.
C'est un futur qui dépend d'eux. S'ils aiment bien gris, qu'ils le tiennent comme ça.
Pour retourner à la littérature, en France, vous avez gagné des prix littéraires, vous avez aussi été invité comme juré au Festival de Cannes. Mais en Italie, vous vous soustrayez à la logique des prix et des concours. C'est le résultat d'un choix précis?
En Italie, j'ai juridiction, si l'on peut dire comme ça. Je peux prétendre que mon éditeur ne me fasse pas participer, concourir, galoper dans aucun prix littéraire. À l'étranger, je n'ai pas de juridiction.
C'est dans le même esprit qu'en Italie, vous avez décidé d'être publié non seulement par les grands éditeurs comme Feltrinelli et Mondadori, mais aussi par des éditeurs qu'on appelle mineurs en italien.
J'ai publié beaucoup avec des éditeurs mineurs, mais il s'agit d'éditeurs petits et amis. Donc j'ai publié gratuitement chez eux.
Toujours en parlant de littérature, votre dernier roman qui est sorti en français est « Essai de réponse » chez Gallimard. Ce sont des réponses à qui, à quoi ?
Il s'agit de réponses à des questions qu'on m'a faites et auxquelles je cherche à fournir une réponse passable. Je cherche à être à la hauteur des questions qu'on m'a posées. C'est pour cela qu'il s'agit d'essais de réponses et non pas de résultats définitifs de réponses. En vivant aussi, chacun cherche à faire de sa propre vie un essai de réponses.
En 2002 est paru « Œuvre sur l'eau », votre premier recueil de poésie. Pourquoi avez-vous décidé de passer de la prose à la poésie ?
Je ne suis pas passé à la poésie parce que je ne suis pas un poète. Je n'arrive pas à appeler des vers mes lignes qui n'arrivent pas jusqu'au fond de la ligne. Il s'agit d'approximations par défaut de vers et de poésie. Je les présente de cette façon parce que je n'arrive pas à les améliorer, à faire mieux. Donc je les laisse comme ça, imparfait, imprécis. Ces pages, cette histoire avaient besoin de ce format.
Parmi vos lectures préférées, y a-t-il plutôt de la prose ou de la poésie ?
Ce qui me nourrit, qui enrichit mon vocabulaire et mes pensées, c'est la poésie. Mais je lis aussi de l'ancien genre narratif.
Dans votre poésie « Valeur », vous dites que vous attachez de la valeur à toute forme de vie, à la neige, à la fraise, à la mouche. Est-ce cela qui manque de nos jours, l'intérêt pour les choses les plus petites, les plus simples ?
Non, je ne pense pas que cela manque de nos jours. Je crois que chacun d'entre nous s'aperçoit que les choses les plus petites sont spéciales, ont une valeur. Moi, il m'arrive de l'écrire, de fixer un sentiment qui est dans, chez chacun, dans tout le monde. Sinon, personne ne le reconnaîtrait. Il ne serait pas reconnaissable.
Grazie mille, Eri De Luca, per essere stato con noi.
Et avant de nous quitter sur Eri De Luca, Marina veut nous lire un extrait de ce livre.
Cet été-là, je connus le baptême de sang de la Murène. Remonté avec la palangre en même temps qu'en mes roues, pendant que mon oncle Nicolas s'occupait du précieux poisson, j'essayais de dégager la meçon de la gorge de la Murène. De ma main gauche, je serrais ses joues pour maintenir sa bouche ouverte. Je réussis à extraire l'hameçon et au moment même où je le sortais, elle se débattit. Je perdis ma prise sur ses joues et ses dents s'enfoncèrent dans ma main à la jointure de mon index. La Murène ne mord pas seulement. Là où elle s'accroche, elle ne desserre pas sa prise. Elle bloque sa mâchoire et ne l'ouvre plus. Je réussis à ne pas crier, les larmes perlaient à mes yeux sous l'effort. Lorsqu'il eut fini avec le mérou et que mon oncle se remit à tirer la palangre, Nicolas me vit, et d'un seul coup de couteau, il détacha la tête de la Murène. Puis, il cassa l'eau de sa mâchoire, et alors seulement, une à une, il ôta les dents de la Murène de mon doigt. Je regardais la mer, tandis que Nicolas exécutait tranquillement une petite opération bien ancienne. Ma main blessée était loin de mes pensées. La douleur frappait, mais je n'ouvrais pas. Il m'arrivait ce que j'avais entendu raconter. Je connaissais déjà le poison de la vive sous le pied et celui de la rascasse dans la paume de la main. J'étais sur un bateau et ce sang faisait partie du conte. Mon oncle ébaucha un sourire entre deux brassées de palangre, hochant légèrement la tête. « Mossi pescatore, maintenant oui, tu es un pêcheur, » dit Nicolas quand il eut fini, rinçant ma main dans la mer. »